Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Baptiste Combi, maître de conférence à l'Université de Paris 2, Sorbonne, Panthéon-Assas, et qui va nous parler d'appréhender les dérèglements climatiques comme un problème social. Jean-Baptiste est un grand spécialiste de l'étude des médias. Voilà, vas-y.
Merci, Ami. Bonjour à tous. Oui, donc je suis aussi sociologue. Avec une perspective sociologique qui est différente de celle de Francis Château-Renaud et que je considère comme étant complémentaire. Remarquez que les changements climatiques constituent désormais un public majeur aux yeux des décideurs politiques et médiatiques français peut paraître d'une grande banalité. En effet, ces enjeux climatiques forment aujourd'hui un lieu commun des discussions officielles comme des conversations ordinaires. L'appréhension de la question climatique par ces décideurs politiques et médiatiques n'a pourtant rien d'évident. Rien d'évident dans la mesure où elle est susceptible de remettre profondément en cause les soubassements sociaux du capitalisme. Autrement dit, en faisant du climat une priorité apparente, les élites risquent de scier la branche sur laquelle elles sont bien assises. Toutefois, pour que les enjeux climatiques déstabilisent les logiques sociales dominantes, encore faudrait-il en effet mettre au cœur du débat la question de la compatibilité des dynamiques capitalistes avec la préservation des écosystèmes naturels et sociaux. En d'autres termes, cela supposerait d'appréhender les dérèglements climatiques comme un problème social. Les données que j'ai produites sur la structuration du débat public français autour du climat, ces données indiquent qu'il n'en est rien et permettent de mieux comprendre comment ce questionnement et cette appréhension du climat comme un problème social sont marginalisés. Partant de ce constat, mon propos s'organisera en trois temps. Tout d'abord, j'expliquerai pourquoi le problème climatique n'est pas tant un problème environnemental, comme il est devenu habituel de le dire, qu'un problème social. Je montrerai ensuite que les mécanismes du débat public conventionnel ont pour effet de désocialiser la question climatique, c'est-à-dire de favoriser des visions des enjeux climatiques qui n'incitent pas à les penser comme un problème social. Comprendre comment ces visions, que l'on pourra qualifier d'individualisantes ou de dépolitisées, s'imposent, comprendre cela permet, nous le verrons, d'éclairer des dynamiques concourant à la préservation de l'ordre social existant. Dans un troisième et dernier temps, j'examinerai ce que cette construction médiatique et politique du climat comme un problème essentiellement individuel et moral fait aux relations entre les groupes sociaux. Cette perspective permet notamment de mettre au jour ce que je propose d'appeler le paradoxe social de l'éco-citoyenneté. Il s'agira alors, en conclusion, de penser ce qui rendrait possible l'appréhension de la question climatique comme un problème social et, ce faisant, de réfléchir à ce que cela impliquerait. Trois matériaux empiriques, types de données, étaye mon propos. J'ai tout d'abord analysé 1295 reportages consacrés aux enjeux climatiques dans les journaux télévisés du soir de TF1 et France 2 entre début 1997 et fin 2011. En parallèle, près de 70 entretiens ont été réalisés avec des journalistes en charge de l'environnement ou du climat dans les médias généralistes nationaux, ainsi qu'avec leurs sources privilégiées, des scientifiques et experts, des agents de l'État, des membres d'associations et organisations non gouvernementales, mais aussi des spécialistes de communication. Le choix des journaux télévisés comme corpus principal de mon travail, rendu possible grâce à l'archivage de ces journaux télévisés au sein de l'Institut national de l'audiovisuel, le choix des JT donc s'explique par le fait qu'étant donné l'étendue inégalée de leur audience, ils représentent pour les agents sociaux une arène publique particulièrement attractive, mais aussi sélective et dont l'accès est donc hautement concurrentiel. Les rédactions de TF1 et France 2 constituent ainsi des espaces dominants dans le champ médiatique et dont les modes de fonctionnement affectent l'ensemble des médias généralistes nationaux. À ce double titre, les journaux télévisés représentent des lieux stratégiques de visibilité pour les agents sociaux, mais aussi un lieu stratégique d'observation des logiques du débat public conventionnel pour le sociologue. Ce à quoi s'ajoute la nécessité d'objectiver les cadrages du problème climatique les plus accessibles afin de faire le lien avec la dernière opération de recherche dont je parlerai à la fin de mon exposé, à savoir essentiellement 12 conversations que j'ai décortiquées, qui ont réuni 50 enquêtés, mais je continue à travailler là-dessus. J'ai fait depuis 70 entretiens approfondis avec différents types d'individus. Ce travail ayant pour objectif de caractériser les modes d'appréhension du problème par les individus ordinaires, tel mode d'appréhension du problème tel qu'il est cadré dans le débat public. Et ce matériau qualitatif s'adosse à une lecture secondaire, j'y reviendrai aussi, de données quantitatives qui informent les pratiques énergétiques des individus en fonction de leur propriété sociale. Alors, si j'ai un peu détaillé ces aspects méthodologiques, c'est bon, d'une part ça m'évitera de le refaire ce soir, mais c'est aussi parce que j'anticipe que dans le temps là qui m'est imparti, je pourrais finalement pas vraiment exposer ces données. Bon, elles sont toutefois accessibles dans les diverses publications que j'ai pu faire et seront réunies dans un ouvrage à paraître au printemps prochain. Ce choix de décrire comment j'ai travaillé pour ensuite passer directement à la présentation des principaux résultats, au détriment donc, pour ce qui est de cette intervention-là, mais ce ne sera pas le cas dans la deuxième, au détriment donc des données elles-mêmes, ce choix est contestable. J'espère néanmoins qu'il vous conviendra et sinon je m'en excuse. J'en profite d'ailleurs pour vous remercier de votre présence et pour remercier aussi les organisateurs de cette conférence, notamment Anne Bonnefoy, qui depuis cet été a rondement mené les préparatifs de cette journée et d'ailleurs j'imagine des suivantes aussi. Alors premier point, en quoi les dérèglements climatiques forment-ils un problème social ? Ce qui au départ est posé comme problématique, ce sont les volumes trop importants d'émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Or, l'ampleur de ces émissions s'accentuerait et s'accélérerait du fait d'une organisation particulière des activités humaines, une organisation caractéristique de ce que l'historien et économiste Karl Polanyi nomme la société de marché. Cette société de marché résulte du désenclastrement de l'économie de marché capitaliste, mouvement qui se durcit à la fin du XVIIIe siècle et par lequel les activités économiques marchandes s'autonomisent et s'affranchissent d'autres logiques sociales. En retour, ce désenclastrement favorise la propagation conflictuelle, jamais linéaire, de principes ajustés à un marché dérégulé, en particulier la concurrence et le mobile du lien économique, donc propagation de ces principes dans des espaces sociaux aussi divers que l'école, la santé, la politique, les médias ou encore la production de l'énergie. Cette marchandisation progressive d'un ensemble d'espaces sociaux donne lieu à une formation sociale toute particulière. Comme le dit Polanyi, je le cite, le développement du système du marché devait en effet s'accompagner d'un changement dans l'organisation de la société elle-même. La société était devenue sur toute la ligne un appendice du système économique. Dire que le dérèglement des climats est un problème social consiste alors à l'imputer à cette organisation collective spécifique qui repose sur des structures de production et de consommation façonnées selon les logiques industrielles et financières du capitalisme, logiques industrielles et financières du capitalisme qui finissent par favoriser un agencement des rapports sociaux sur un mode concurrentiel. En d'autres termes, dire que le dérèglement des climats est un problème social, c'est l'interpréter comme étant d'abord une conséquence de ce qu'on peut appeler l'ordre social capitaliste, c'est-à-dire l'ensemble des mécanismes qui, en structurant la distribution des richesses matérielles et symboliques, mécanismes qui ordonnent de façon plus ou moins hiérarchique les relations entre les groupes sociaux dans une société où priment les raisonnements marchands à des fins capitalistiques. Il est commun et consensuel d'affirmer que le problème climatique est lié aux activités humaines ou à l'homme. Il est en revanche plus rare d'entendre dire qu'il est lié non pas tant aux activités humaines qu'à une certaine organisation sociale et politique des activités humaines, en particulier les activités de production et de consommation. Donc l'idée selon laquelle les problèmes dits environnementaux ont des causes avant tout sociales n'est pas absente du débat public. On la retrouve bon an mal an dans tous les discours affirmant que sur une planète aux ressources naturelles limitées, l'accumulation illimitée du capital pour maximiser les profits est un principe non seulement amoral mais irrationnel. De l'écologie politique d'un René Dumont aux historiens de l'environnement expliquant que les modes de production industrielle développés depuis plus de deux siècles ont exploité les ressources de la planète au point de nous faire entrer dans une nouvelle ère géologique dont on a vu qu'elle était nommée l'Anthropocène. Bon, tous ces points de vue soulignent que le système capitaliste génère inévitablement des dégâts qui fragilisent les conditions de la vie sur Terre. Avec la valorisation publique des enjeux climatiques, ces visions socialisantes et politisées des problèmes dits environnementaux ont pu élargir leur audience. Dans un rapport publié en 2005, l'Agence européenne de l'environnement admet d'ailleurs que, je cite, « c'est la vitesse et l'ampleur du développement économique qui menacent l'intégrité des services écologiques qui soutiennent l'activité économique. L'existence de limites physiques à la poursuite de la croissance économique basée sur l'utilisation des ressources est désormais généralement admise. » Donc, Agence européenne de l'environnement 2005. Ces visions qui définissent la question climatique comme un problème social et finalement politique restent cependant cantonnées aux marches des espaces dominants du débat public. Et quand elles parviennent à obtenir une visibilité conséquente, c'est généralement par des coups d'éclat critiques et donc au prix d'une spectacularisation, je pense par exemple à des choses qu'a pu faire Nicolas Hulot, tout ça ne devait pas masquer la tendance générale à la disqualification des lectures politiques ou sociales des enjeux environnementaux. Donc, voyons donc justement comment le problème climatique est désocialisé, comment ces versions politisantes, socialisantes de la question climatique sont marginalisées. Puisque si le problème climatique n'est pas défini comme relevant du social, comment donc est-il présenté ? Les visions les plus récurrentes et les plus accessibles du problème climatique sont d'abord celles qui l'imputent au comportement individuel et ensuite celles qui le réduisent à une question technique ou technologique. Dans la mesure où c'est l'individualisation du problème plus que sa technicisation qui permettent de comprendre le débat public sur la question climatique, je me suis surtout attelé à comprendre comment le problème climatique a été individualisé, c'est-à-dire déplacé de la sphère publique des choix collectifs vers la sphère privée des comportements routiniers. S'il fallait désigner par un seul terme ces visions désocialisées et individualisées du problème climatique, ce serait celui d'éco-citoyenneté. La montée en puissance des initiatives et discours éco-citoyens à partir du début des années 2000 se révèle étroitement liée à la dépolitisation et à l'individualisation du problème climatique. Comprendre l'essor assez spectaculaire de l'éco-citoyenneté, donc au début des années 2000, suppose en effet de comprendre comment s'est banalisé le postulat selon lequel, pour résoudre les nuisances environnementales, ce n'est pas l'ordre social qui doit être discuté, mais l'organisation des modes de vie individuels qui doit être régulée, notamment via des rationalités et des mécanismes de marché. Pour expliquer cela, il faut mettre en relation des transformations structurelles concomitantes qui concernent au moins quatre univers sociaux. Celui de la haute fonction publique, où se définissent les politiques publiques, celui des sciences du climat, celui des associations écologiques et enfin celui du journalisme environnemental. Je n'ai pas ici et maintenant le temps d'expliciter en détail ces transformations. Je détaillerai tout à l'heure, à 19h, les transformations concernant le journalisme environnemental à la fin des années 90, début des années 2000, et j'essaierai à ce moment-là d'aborder rapidement celles concernant les trois autres univers sociaux que j'ai mentionnés. Et pour l'heure, à défaut d'avoir suffisamment de temps pour expliquer comment les choses se sont déroulées, je vais revenir sur ce qu'il s'est passé. Ce qu'il s'est passé, c'est d'une part qu'un certain nombre d'acteurs issus de ces quatre univers ont entrepris de se mobiliser pour faire du climat un problème public de premier plan, et d'autre part que cette mobilisation a trouvé comme monnaie d'échange ou comme dénominateur commun l'idée que les individus étaient responsables de 50% des émissions de gaz à effet de serre. Alors à nouveau, il serait trop long d'expliquer comment ce chiffre, 50% des émissions de gaz à effet de serre, comment ce chiffre s'est imposé alors même qu'il n'a pas vraiment de consistance et qu'il résulte simplement d'une interprétation très arbitraire des inventaires de gaz à effet de serre en France. Mais ce qui a fait tenir ensemble les différents acteurs du problème climatique en France, mais pas seulement en France d'ailleurs, c'est cette idée qu'il fallait massivement sensibiliser les individus et que, d'une certaine façon, tout le débat public sur ces enjeux devait servir cet objectif. C'est ainsi construite ce que je propose d'appeler une doxa sensibilisatrice, c'est-à-dire une croyance largement partagée et indiscutée dans les bienfaits de la sensibilisation aux bons gestes pour la planète. Cette doxa renferme une conception des changements de comportement qui se révèle mécaniste, psychologisante et assurée d'un succès social d'autant plus large qu'elle soutient dans la joie et la bonne humeur que les solutions aux problèmes climatiques se logent d'abord dans les arbitrages des individus et des ménages, épargnant par là même les solutions qui seraient plus structurelles et systémiques. Certes, les politiques structurelles, en termes d'aménagement des transports, d'urbanisme, etc., ne sont pas inexistantes, mais elles concernent des secteurs dont les intérêts sont plus organisés que ceux relativement anonymes des consommateurs. C'est en partie pourquoi ces mesures se révèlent délicates à élaborer et se situent dans des temporalités plus longues. On ne construit pas une ligne ferroviaire comme on instaure un crédit d'impôt, ce qui les rend moins valorisables médiatiquement. Combien de temps il me reste ? Un quart d'heure ? 20 minutes ? Très bien. Alors, petit aparté, petite précision. La préservation d'un ordre social, de l'ordre social capitaliste, suppose une foule de petits changements. Ces ajustements et réajustements permanents garantissent la continuité globale du système. Cette résilience, cette caractéristique, cette plasticité du capitalisme est bien connue de ses adversaires qui, se référant parfois à un passage du départ de Lampedusa, dénoncent une forme d'idéologie du changement permanent entretenue par les dirigeants qui auraient bien compris que pour que, je cite cette phrase qu'on voit souvent dans les milieux militants, qui dit que pour que tout reste comme avant, il faut que tout change. Car l'aménagement écologique du système dominant, tantôt qualifié de modernisation écologique, d'économie verte ou de croissance verte, outre que cet aménagement soigne sa visibilité auprès du plus grand nombre, il faut bien avoir en tête qu'il mobilise effectivement de nombreuses énergies et engendre des investissements réels. Il génère de nouvelles pratiques, de nouveaux métiers, de nouvelles formations professionnelles qui ne sont pas sans conséquence sur l'activité et les stratégies de certains secteurs économiques. Pour ceux qui vivent et qui mettent en œuvre cet aménagement écologique du système dominant, ces évolutions peuvent être perçues comme de réels bouleversements. Il ne faut donc pas négliger les effets de ces réorientations verdoyantes de la spirale capitaliste sur les millions d'individus qui les mettent en place ou les utilisent. En particulier, elles alimentent donc que les choses changent et rendent peu audibles les analyses expliquant que ces changements sont très relatifs dans la mesure où, loin d'être systémiques et structurels, ils se révèlent partiels, modérés, épars, fragiles est généralement subordonnée aux mécanismes du marché. De nombreux travaux en sciences sociales montrent en effet que les efforts multiples pour intégrer l'enjeu écologique aux logiques sociales dominantes, ces efforts multiples, bien souvent présentés comme de véritables mutations des appareils productifs ou des logiques consuméristes, ne constituent en fait qu'une mise sous tutelle économique des enjeux environnementaux. Il n'en demeure pas moins que les discours de l'éco-citoyenneté sont d'ailleurs des discours du changement qui alimentent cette impression que la société se verdit. Ils véhiculent l'idée qu'il faut changer les individus pour changer la société, là où les sciences sociales n'ont cessé de montrer que pour changer les individus, il fallait conjointement changer la société. Autrement dit, qu'on ne pouvait pas changer les individus sans changer la société, si bien que ce n'est pas en décrétant des changements, le changement individuel ou des changements de comportement individuel qu'on allait changer la société. Il reste que, faisant peu de cas de l'imbrication de l'individu et du collectif, la doxa sensibilisatrice a aspiré et fédéré un volume significatif de ressources humaines et matérielles autour d'un leitmotiv, recoupant d'ailleurs la double définition du verbe sensibiliser, c'est-à-dire rendre sensible pour faire prendre conscience. On peut, par exemple, distinguer trois registres, trois topoi de cette doxa sensibilisatrice, un registre pédagogique, présenter et expliquer les causes du problème, le registre de la prise de conscience, montrer les conséquences du problème, le rendre palpable, concret, alors que le changement climatique est, par définition, en tout cas au moment où il émerge dans l'espace public, un problème abstrait, lointain dans le temps et dans l'espace. Troisième registre, un registre incitatif, civique, qui vise à permettre à chacun de prendre au quotidien, chez soi, l'avenir de la planète. Donc là, c'est toutes les politiques publiques incitatives, centrées sur l'individu, prêt à taux zéro, crédit d'impôt, bonus-malus, etc. Je reviens maintenant au troisième point de ma présentation. Donc le paradoxe social de cette éco-citoyenneté. Une des forces de cette vision individualisée du problème climatique, c'est qu'en faisant du climat et de l'environnement l'affaire de tous, pour reprendre un ancien slogan du ministère de l'Environnement, elle se présente comme neutre, œcuménique, apolitique, et donc universelle. Or, les champs médiatiques et politiques étant deux univers sociaux fortement contraints par la quête du plus grand nombre, et donc friands de ces visions aseptisées, la doxa sensibilisatrice, mieux connue donc sous le nom d'éco-citoyenneté, avait toutes les chances de s'y répandre sans rencontrer trop de résistance. Mais précisément parce qu'elle prétend s'adresser à tous à travers un discours volontairement positif et non stigmatisant, l'éco-citoyenneté n'est en fait pas aussi neutre que ses partisans l'affirment. Là où elle se présente comme universelle, je voudrais maintenant montrer que la grande majorité des discours éco-citoyens sont en fait politiquement orientés et idéologiquement marqués, car socialement situés. L'individualisation des problèmes sociaux dans le débat public génère une prolifération de prescriptions normatives. Éco-citoyenneté, ça signifie que pour être un bon citoyen, il faut faire attention à l'environnement au quotidien. Donc c'est normatif. Mes recherches sur les rapports pratiques et symboliques que les différents groupes sociaux entretiennent avec la question climatique montrent qu'en matière environnementale, ces normes dites éco-citoyennes viennent aussi alimenter des composantes identitaires positives, mais qui, loin de profiter à tous, ou à tout le monde, ces composantes identitaires positives bénéficient surtout, et paradoxalement, à ceux qui dominent déjà le jeu social, ceux qui sont aussi les moins vulnérables aux nuisances environnementales, c'est-à-dire ceux qui, en pratique, sont les moins respectueux de l'atmosphère et des écosystèmes. Alors, quatre caractéristiques de la doxa sensibilisatrice et des normes éco-citoyennes qu'elle génère permettent de comprendre ce paradoxe. Tout d'abord, elle passe sous silence les inégalités de contribution au problème, c'est-à-dire le fait que tous les styles de vie ne sont pas également responsables des émissions de gaz à effet de serre, mais que plus les ressources économiques sont élevées, plus la propension à polluer est forte, et ce, malgré leur éventuelle conscience écologique. Des collègues belges ont montré la même chose, ils ont eu cette phrase qui résume bien cette idée, ils disaient, en matière environnementale, mieux vaut être pauvre et non sensibilisé que riche et bien conscientisé. Ce faisant, dans la mesure où elles ne tiennent pas compte justement de ces inégalités de contribution au problème, ces normes éco-citoyennes, ces discours éco-citoyens n'ont pas besoin de pointer du doigt les comportements énergivores ou pollueurs et peuvent se contenter de mettre l'accent sur les bonnes pratiques. Alors, il est sans doute ici intéressant de remarquer que quand il s'agit des comportements caractéristiques des milieux populaires, les discours, là pour le coup, ne rechignent pas du tout à stigmatiser les mauvais comportements. Troisième caractéristique de ces discours éco-citoyens, ils portent sur des comportements compartimentés et non sur des styles de vie. ce qui permet à ceux dont le bilan carbone est élevé de modifier quelques comportements sans avoir à réviser l'intégralité de leur style de vie. Et donc à faire valoir le fait qu'ils font attention à l'environnement en matière de logement, par exemple, ce qui ne les empêche pas de prendre l'avion tous les mois. Ouais, donc ça permet des logiques de compensation comme ça qui favorisent justement des composantes identitaires positives. Quatrième caractéristique, ces discours éco-citoyens s'appuient sur une grammaire de la pédagogie et de la prévoyance au sens de Norbert Elias, c'est-à-dire la disposition à tenir compte des conséquences futures et pour autrui de ces comportements présents et personnels. Donc ces normes éco-citoyennes s'appuient sur une grammaire de la pédagogie et de la prévoyance qui entre davantage en résonance avec l'éthos, les valeurs des classes sociales favorisées et beaucoup moins avec les classes populaires. Là-dessus, c'est intéressant de voir, c'est notamment le rapport à l'avenir, hein, la capacité à se projeter dans l'avenir qui explique beaucoup de rapports à l'environnement, à l'éco-citoyenneté. Pour résumer donc tout ça en une phrase, je dirais que cette entreprise de moralisation du quotidien, puisque c'est bien de ça dont il s'agit, notamment parce qu'elle est menée par des professionnels de la sensibilisation appartenant eux-mêmes aux fractions supérieures de la société, cette entreprise de moralisation du quotidien est agencée de telle sorte qu'elle masque la contradiction entre, d'un côté, des valeurs et des styles de vie fortement émetteurs de gaz à effet de serre, mais encore et toujours très légitimes, qui plus est dans les groupes privilégiés, et de l'autre, donc, contradiction entre ces valeurs et styles de vie légitimes, hein, et de l'autre, la bonne conscience écologique dont les membres de ces groupes privilégiés se prévalent. Et donc, il en résulte des formes contemporaines de distinction sociale qui, loin d'amender l'état des rapports de force entre les groupes sociaux, et donc l'ordre social, le consolide. Paradoxalement, donc, les logiques sociales dominantes favorisent une vision du problème climatique dès lors qu'elle individualise le problème climatique, profite symboliquement à ceux qui, matériellement, émettent le plus de gaz à effet de serre. A l'inverse, les individus les plus démunis économiquement et qui agissent d'une certaine façon comme des écologistes à leur insu, de par leur mode de vie relativement contraint, ces individus-là se retrouvent dépourvus des crédits symboliques, par exemple reconnaissance, valorisation, respect, qu'ils auraient pourtant pu tirer d'une dose sensibilisatrice qui se serait davantage concentrée sur les comportements les plus problématiques. J'en viens maintenant à ma conclusion qui sera un petit peu longue.
Un petit peu long, mais il te reste 5 minutes.
5 minutes, c'est parfait. Voilà, très bien. Conclusion, donc ce qu'appréhender les dérèglements climatiques comme un problème social implique. Donc comme nous sommes dans un lieu de débat, de discussion, je me propose de réfléchir aux possibles implications politiques de ces analyses scientifiques. Sur le plan de l'action, mes observations ne signifient en effet pas que la sensibilisation à la protection de l'environnement est inéluctablement contre-productive. Loin de là. Mon propos est plutôt de remarquer que les modalités et l'ampleur de l'individualisation du problème climatique engendrent une telle contraction du débat public conventionnel que les solutions se situant à d'autres échelles peinent à être envisagées comme des options politiques sérieuses dont il faudrait débattre collectivement. D'une certaine façon, là où appréhender les dérèglements climatiques comme un problème social pourrait favoriser une délibération démocratique dans les termes politiques du modèle de société ou des futurs possibles, bien, les visions qui réduisent ce problème à une affaire de morale ou de comportement individuel ou de défi technologique, en faisant comme si l'individu et la technique étaient politiquement neutres, ces visions dépolitisées génèrent un rétrécissement, voire une clôture du débat public. Mais au-delà de ces considérations démocratiques, un faisceau d'indices signale que la morale écologique, même si elle peut à bien des égards être bénéfique, donc, cette morale écologique restera sans effet sur la réduction des problèmes environnementaux tant que ne seront pas détricotés les mécanismes et structures entretenant une forme sociale pyramidale en haut de laquelle on accède et du haut de laquelle on se distingue en cultivant des styles de vie aux principes de pollution et d'émissions de gaz à effet de serre importantes. Sans doute perçoit-on alors mieux ce qu'implique l'appréhension des changements climatiques comme un problème social. La question posée est en effet celle des conditions de possibilité d'une redéfinition substantielle de l'échelle des valeurs et en particulier de la soustraction de cette échelle de valeurs à l'idéologie capitaliste. Car on sait depuis Max Weber au moins que, comme tout ordre social, le système capitaliste est solidaire d'un ensemble de normes et de critères de la réussite dont la fonction est d'offrir aux individus de profondes raisons morales d'adhérer à cet ordre social. En l'occurrence, ces normes et critères de la réussite ont notamment pour maître mot l'immédiateté, le présentisme, la rapidité, la rentabilité, la concurrence, l'excellence, la compétitivité, le consumérisme, la responsabilité individuelle, le mérite, la technicité, la fluidité, le compromis ou encore le consensus. Avec la DOLSA sensibilisatrice et l'éco-citoyenneté, les discours dominants sur l'environnement se révèlent très compatibles avec ce cadre normatif. Appréhender la question climatique comme un problème social, n'est-ce pas donc une condition nécessaire pour œuvrer au renforcement du pluralisme des cadres d'interprétation des problèmes sociaux, de manière à ce que soient publiquement valorisés des régimes moraux et axiologiques concurrents à ceux qui dominent encore actuellement? Ces régimes moraux et axiologiques concurrents existent et progressent, par exemple à travers les mouvements de la transition. Mais ils se heurtent encore à un débat public conventionnel dont les logiques font qu'ils sont perçus au mieux comme sympathiques ou anecdotiques et au pire comme farfelus ou utopistes. Et quand bien même ces régimes moraux qui défient la hiérarchie capitaliste des valeurs parviendraient à s'imposer dans le débat public, ces transformations dans le monde des idées ne pourraient sans doute pas faire l'économie d'une modification en profondeur d'un ensemble d'institutions, comme en particulier le marché du travail, afin par exemple de donner aux personnes le temps nécessaire au mode de vie respectueux de la planète. Modification en profondeur d'un ensemble d'institutions qui, à travers les expériences socialisatrices qu'elles favorisent, contribuent à façonner nos aspirations morales. Je terminerai donc en disant que penser démocratiquement le problème climatique, le penser dans sa profondeur sociale, c'est accepter de débattre du capitalisme et donc admettre que celui-ci est un système social qui, comme tout système politique, n'est ni naturel, ni immuable ou éternel. Et pour ceux qui en douteraient, et ces doutes seraient bien légitimes puisque rien ne nous incite vraiment à considérer qu'il existe des alternatives. Pour ceux qui en douteraient, donc, je ne saurais que trop vous recommander la lecture de cet ouvrage qui vient de sortir à la découverte et intitulé « Le capitalisme a-t-il un avenir ?». Il a été rédigé par cinq chercheurs en sciences sociales de réputation internationale et, si vous me permettez, je vous lis juste les premières phrases d'introduction de l'ouvrage. Et donc, qui ont été rédigés par les cinq auteurs, qui ne sont pas toujours d'accord. Et c'est ça qui est intéressant, c'est un livre débat. Ils disent « Les prochaines décennies nous réservent de grosses surprises et d'énormes défis. Certains auront un air de déjà-vu, d'autres seront complètement inédits. Nous aurons à faire face à des choix difficiles et à des dilemmes politiques sans précédent. Ces bouleversements ne sauraient tarder et affecteront certainement la vie d'adulte des jeunes générations actuelles. Ce n'est toutefois pas une raison pour sombrer dans un pessimisme unilatéral. » Les décennies à venir nous offrent également la possibilité de faire les choses différemment de ce qui a été fait par le passé. L'objet de ce livre est d'analyser, sur la base de notre connaissance sociologique de l'histoire mondiale, la nature probable des défis et des opportunités qui se présenteront à nous et d'en débattre. En fin de compte, l'aspect le plus troublant du monde de l'après-guerre froide, c'est que, depuis près de trois décennies, il n'est plus de bon ton, et il est même carrément embarrassant, de débattre des avenirs possibles de notre monde et surtout des perspectives d'évolution du capitalisme. C'est la conviction que quelque chose d'énorme se profile à l'horizon qui a motivé l'effort collectif des cinq auteurs de ce livre. Nous avons affaire à une crise structurelle bien plus importante que la grande récession de 2008, laquelle risque de passer rétrospectivement pour le simple prologue d'une période de troubles et de transformations bien plus profondes. Et donc les auteurs, bien entendu, accordent une part importante à la question du changement climatique dans leur raisonnement.
Oui, merci pour l'exposé. Moi, je souscris complètement à ce que vous venez de dire sur effectivement le. On a tous peut-être déjà un début de réponse sur le capitalisme a-t-il un avenir, mais au-delà du système capitaliste, j'ai envie de parler aussi moi du système productiviste, parce que en URSS notamment ou en Allemagne de l'Est, qui n'était officiellement pas capitaliste, c'était un système très productiviste. Qui avait des conséquences dramatiques aussi sur le plan social et environnemental. Quoi. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous pensez par rapport à capitaliste ou système productiviste. Peut-être que voilà, capitaliste, oui, mais le reste ne valait pas mieux en face. Quoi. Donc c'est un autre système de construction sociale, économique, enfin, etc., auquel il faudrait advenir.
Oui, je suis d'accord.
Non, merci, c'est très intéressant parce que justement, c'est peut-être trop systématique, peut-être. Mais justement, c'était une question sur la théorie du pouvoir qui est sous-jacente à l'exposé. Parce que d'un côté, il y a une dimension donc sociologie de la domination, il y a des classes dominantes, bon, effectivement, qui ont un style de vie, donc il y a une logique de l'inégalité qui peut d'ailleurs se décliner en inégalité environnementale, mais qui est quand même portée par des groupes, hein, c'est pas complètement absent du tableau. Aux États-Unis, c'est l'environmental justice qui est quand même un mouvement très fort. Donc, Est-ce que de ce côté-là, il y a des choses qui peuvent se débloquer? Puis de l'autre, donc, c'est la théorie du pouvoir, parce qu'effectivement, un pouvoir léniniste, j'y ai fait allusion tout à l'heure, n'est pas forcément mieux que, ou maoïste d'ailleurs, qu'un pouvoir Monsanto, je ne sais pas quoi, compatible avec Wall Street. Donc la question, c'est, effectivement, moi j'ai essayé de poser le problème de ce que ça produit quand on descend en échelle et où on a quand même un empowerment, un mot bizarre, hein, je suis d'accord, mais quand même, où les acteurs peuvent avoir prise quand même sur des coins. D'ailleurs, la région ici est un exemple, voilà, où on arrive quand même à configurer des choses, à faire bouger, quitte à ouvrir le conflit avec d'autres instances. Comment, en fait, cette approche-là peut être compatible avec une approche par les causes collectives, par les protestations, les mouvements sociaux, qui quand même portent un certain nombre de choses? Et peu importe que les alliances se fassent entre des bobos montreuillois et des paysans du Larzac, entre, à un moment donné, une cause... L'autre jour, José Bové disait le plus grand bien du pape François, je ne sais pas si vous l'avez vu, en disant c'est un type bien, en plus il représente un milliard de gars, donc moi je prends, c'est toujours intéressant d'avoir un allié, surtout contre les gaz de schiste, qui représente un milliard de, d'âmes potentiellement. Donc y a, alors, on peut dire que c'est de l'opportunisme tactique, là, mais quand même, est-ce que... les questions sociales et environnementales peuvent rester définies dans une grille très statique, parce qu'il y aura toujours des prises de pouvoir, de toute façon. Voilà, c'est ça que je veux dire. D'où la question, effectivement, sur le productivisme, qui est très juste.
Je réponds ? Oui, si tu veux. Oui, alors, il y a peut-être un effet de présentation aussi. Tu peux expliquer la réception de mon propos. Dans la mesure où je pense que justement, j'essaie d'étudier des dynamiques et de sortir d'une vision statique et de voir comment il y a en permanence des rapports de force qui se reconfigurent et qui peuvent effectivement engendrer de l'empowerment ou des consciences politiques. Bon. C'est très important. Néanmoins, il me semble que... voilà, c'est le cross collective, en tout cas dans le débat public, c'est aussi c'est important d'avoir en tête que j'étudie le débat public qui, par définition, est une simplification de la complexité du réel. Et dans ce débat public, c'est le cross collective peine à imposer des visions, des versions, justement, pour reprendre votre terme, du problème qui en font un problème politique, quoi. Et c'est ça que j'essaie de comprendre, en fait. C'est-à-dire comment les logiques sociales qui structurent le débat public sont assez imperméables à ces visions-là.
Voilà. Alors, merci Jean-Baptiste. Une petite question qui rejoint un petit peu sur le côté dynamique. Alors, j'ai beaucoup apprécié la notion de doxa sensibilisatrice. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur la dynamique de construction de cette doxa par rapport aux critères que tu as définis et sur l'échantillon assez large que tu as, justement, de voir la tendance, peut-être, est-ce que tu arrives à faire une projection sur sa future construction?
Sur sa future construction, je ne sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent aujourd'hui sur toute cette nébuleuse de l'économie collaborative, bon, mais où on retrouve les mêmes biais, c'est-à-dire que bon, c'est partiellement convaincant et c'est aussi très dépolitisé. Souvent, voilà. Mais alors après sur comment cette doxa sensibilisatrice s'est construite, quelque chose qui contribue très fortement, c'est les politiques publiques définies. C'est-à-dire que c'est des politiques publiques qui sont nécessaires, solidaires de cette sensibilisation. Un exemple assez révélateur, c'est que la campagne du ministère de l'Environnement sur le changement climatique, c'était avec la signature économie d'énergie faisant vite sa chauffe, a été la campagne de communication publique la plus longue de l'histoire. C'est-à-dire qu'elle a duré 9 ans et la même signature, on n'avait jamais vu ça. Voilà. Donc ça montre bien comment ça s'est construit, avec la montée en puissance des spécialistes de communication, la montée en puissance de psychosociologues aussi, des gens comme Robert Vincent Joule ou Jean-Léon Beauvois, qui ont donné une caution académique à ce type de discours, et donc qui ont validé une vision de l'individu comme un individu en apesanteur, un individu moyen, générique, comme si on était tous pareils, quoi. Et donc, voilà, il y a aussi la statistique publique qui entre en compte, c'est-à-dire comment on a justement imputé le fait que les Français étaient responsables de 50% des émissions de l'effet de serre. En 2003, 2004, 2005, ce chiffre-là, on l'avait partout, quoi. Il y avait dans les JT, dans les coups de dossier de presse de l'État, enfin, ça revenait tout le temps. Donc du coup, regarder comment ce chiffre-là s'est construit et imposé, voilà, donne des leçons, permet de comprendre. J'y reviendrai peut-être ce soir.
Moi, je voudrais dire, d'une part, bon, on discute là du système capitaliste, bon, son échec en matière environnementale est épatante, je veux dire, elle est à peine à démontrer. Une des raisons de ça, me semble-t-il, c'est le mode de fonctionnement de ce système de production qui est exclusivement situé dans le court terme. Et on voit mal comment on peut prendre en compte les problèmes environnementaux si on se cantonne au court terme. Ils n'apparaissent que la plupart du temps qu'au bout d'un certain nombre d'années ou même des fois de siècles. Et donc, je pense qu'il y a eu un échec des systèmes productivistes. Je rejoins ce que disait Persuit, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas trouver un système qui soit capable de prendre en compte les problèmes environnementaux. Et c'est, je trouve, tout à fait intéressant de démasquer toute cette philosophie de l'éco-citoyenneté.
Alors justement, ça me permet de rebondir sur ce que j'ai pas répondu à la question qui est revenue plusieurs fois du productivisme. C'est effectivement très intéressant parce qu'on voit bien toute la difficulté que les mouvements ouvriéristes ont face à la question environnementale. Ils sont complètement démunis, ça les oblige à revoir tout leur logiciel. Donc c'est intéressant. Il y a une autre dimension aussi qui est nouvelle, il me semble, enfin nouvelle. En tout cas, qui surgit et qui est très importante, c'est la question de l'émancipation individuelle, enfin de la singularité des individus qui était complètement étouffée dans les systèmes soviétiques, par exemple. Et donc, c'est du coup reconstruire effectivement un système qui soit à la fois non productiviste, respectueux des individualités, et en même temps qui relève d'une organisation sociale, quoi. Avec tout ce que ça a d'impersonnel, de comment on réorganise ça face à ces nouvelles données. Ça revient à la question que je posais tout à l'heure à Francis Chatorino, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, il me semble, dans des expérimentations sociales comme celles qu'on observe sur Notre-Dame-des-Landes, c'est qu'ils ont bien compris tout ça et qu'ils réfléchissent et qu'ils proposent des choses, ils essaient des choses aussi. Alors c'est difficile, il y a des échecs, des fois ça ne marche pas, des fois il y a des conflits, parce que voilà, c'est conflictuel, la vie sociale est conflictuelle, mais ils essayent. Voilà. Et c'est ça qui est inspirant, il me semble. Mais comme c'est aussi des choses qui sont très intéressantes dans tous les mouvements du sharing, de l'économie covoiturage, couchsurfing, coworking, etc. Bon, c'est des lieux où se construit, s'éprouvent de nouvelles organisations sociales qui méritent, à mon avis, d'être attentivement réfléchies ou observées.
Très rapidement, on parlait conflit, on parlait une des réussites entre guillemets du système dont on vient de parler, c'est d'avoir réussi aussi à opposer les gens les uns contre les autres. Je vous donne juste un exemple. Dans le monde ouvrier, manger bio, c'est un truc de bobo. Si vous mangez bio, c'est que vous êtes riche. Essayez d'expliquer que ça concerne aussi le monde ouvrier, que ce n'est pas une question d'ouvrier ou de pas ouvrier, mais c'est une question de santé humaine, de préservation de l'environnement, ça ne passe plus. Et on a des espèces de clivages comme ça, absolument extraordinaires, qui fait que ça rend les choses encore beaucoup plus difficiles. Alors je ne sais pas si c'est un sujet qui est réfléchi là-dessus, mais ça complexifie encore les choses.
Alors, on trouve quand même des gens issus du milieu populaire qui mangent bio. Enfin, moi j'en rencontre et je discute. Mais c'est souvent parce qu'ils sont aussi dans des sociabilités où ils sont en contact, par exemple, je pense à une enquêtée avec qui j'ai fait un entretien qui était riche de ce point de vue-là, qui aide à domicile, qui a pas le bac, et qui, par contre, est amie avec une styliste dont le mari est pilote. Elle m'en parle beaucoup, on sent qu'ils sont influents. Et du coup, elle s'efforce de manger bio. Mais elle dit bien que, bon, à un moment, ça coûte trop cher, quoi. Voilà, à un moment donné, ça coûte trop cher. Ou un autre enquêté qui, lui, a fait pas mal d'études et se lit beaucoup, s'informe beaucoup, mais qui, au niveau économique, n'a pas du tout d'argent. Il a eu cette phrase qui a servi à triste. Il dit, moi, j'ai pas les moyens de me la péter écolo. Voilà, je trouve que ça résume bien les choses.
Voilà. On peut signaler, peut-être pour en relation avec le livre que tu as cité en fin de ton exposé, le nouveau livre de Naomi Klein, qui est sorti, je ne sais plus quel est le titre anglais, mais c'est en gros, il faut tout changer, y compris le capitalisme. Bon, c'est intéressant, c'est très bon. Il est certain qu'il faut s'ouvrir les œillères et se dire que rien n'est exclu. Maintenant, bon, même si j'ai pas mal de sympathie pour la position, le positionnement de Naomi Klein, on sait bien qu'aujourd'hui, par rapport à l'ampleur de ça, c'est quelque chose qui ne se décrète pas. C'est-à-dire la transformation vers la fin du capitalisme ou bien la révolution mondiale, c'est pas quelque chose qui se décrète. Ou alors, il faut être très jeune pour y croire. Et malheureusement, je ne suis plus exactement dans cette catégorie d'âge. Et donc, j'y crois pas. J'y crois plus. Non, j'y crois pas. Et donc, voilà. Ça ne veut pas dire que le capitalisme est éternel. C'est pas la même question. C'est pas la même question. Donc là, toutes ces dynamiques sociales dont tu parles, qui à la fois peuvent ouvrir des nouveaux champs possibles, etc., ça, bien sûr, ça c'est très important, et ça a lieu, et comment on les accompagne, comment on les étudie, etc. Maintenant, l'idée de la transformation structurelle énorme qu'on peut appeler de nos voeux, et qui est la seule véritablement à pouvoir... sinon résoudre, mais enfin véritablement affronter dans cette dimension la crise climatique et environnementale majeure, celle-là, elle ne se décrète pas à l'échelle mondiale, selon moi.
Bien, ami, c'est peut-être le mot de la fin, mais pour un temps momentané, puisqu'on va se retrouver à 19h, je voulais remercier l'ensemble des intervenants de cette journée, vous remercier, puisque vous êtes... également contributeur de ces contenus. À 19h, on va essayer de décortiquer, encore avec Jean-Baptiste, la place des médias avec certains médias régionaux. On s'attend à l'inattendu. Et puis, ce week-end, celles et ceux d'entre vous qui souhaitent venir partager nos ateliers, nos débats autour des films, vous êtes encore une fois le bienvenu. Demain, on continue avec des classes. Et notre maire Alain Clès passera voir le travail qu'on fait avec des classes de lycée, mais également des classes de jeunes en situation de handicap qui s'intéressent à ce problème. Donc merci à tous. Merci beaucoup.